Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révélé une partie d'eux-mêmes qui serait certainement restée endormie. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après? Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort? N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
Je m'appelle Charline, j'ai 24 ans. Avant, je vivais une enfance heureuse dans une famille aimante. Et depuis le 31 août 2013, je suis une rescapée. Alors moi, je grandis dans un contexte familial plutôt classique. On est une famille de quatre. J'ai un petit frère qui a 5 ans de moins que moi, qui s'appelle Théo. Et papa est chef cuisinier dans un lycée agricole. Maman, elle est prof de sport dans le même lycée. Et j'ai plein de bons souvenirs de mon enfance, plein de bons souvenirs de vacances, de souvenirs avec des cousins, de souvenirs de Noël. Et nos parents apportent beaucoup d'importance à nous dire qu'on a de la chance, en fait. Et c'est quelque chose que j'intègre très rapidement parce qu'ils nous le disent souvent. Vous savez, vous avez de la chance de partir en vacances. Et je me sens chanceuse, une petite fille chanceuse d'avoir ces parents-là, d'avoir ce contexte familial-là, de pouvoir partir en vacances. C'est une famille plutôt unie. On fait toujours des petits événements familiaux qui, enfin, moi, me font me sentir intégrée dans une famille unie. Je suis une enfant très souriante, mais mes parents me disent tout le temps que, et on le voit sur les photos, que j'ai toujours le sourire aux lèvres. Et très vite, c'est la maîtresse de maternelle qui dit ça à maman. Après une journée où j'ai longuement insisté pour faire de la peinture alors que c'était pas le jour de peinture, la maîtresse avait dit à maman « Oh là là, mais c'est fou, elle obtiendra toujours ce qu'elle veut dans la vie » parce que elle m'a demandé au moins 20 fois, toujours de manière très polie, mais elle aura ce qu'elle veut dans la vie. Mes parents, je sens qu'il y a de l'amour entre eux. Enfin, dans un premier temps, je me sens bien auprès d'eux. Après, quand j'arrive dans mes années collège, je sens que ça se dégrade un petit peu, en fait. À la fois, il y a aussi beaucoup d'amis de mes parents qui ont des parents divorcés, donc j'y vois pas forcément d'anormalité, mais quand on part en vacances, il y a de plus en plus d'énervement, d'agacement, de bouderie qui parfois durent des jours. Et j'observe ça et ça me peine un petit peu, mais j'y vois pas forcément d'anormalité à ce moment-là. Du coup, quand je rentre au collège, je comprends que ma grand-mère est atteinte d'une maladie dont je connais pas le nom. Et à chaque fois que je vais la voir, elle bave. Quand on lui fait un bisou, elle laisse toujours de la bave sur la joue, donc j'essaie de faire un bisou le plus vite possible. Et puis quand elle mange, elle en met partout. Et puis ses mots, ils sont incompréhensibles, donc on la comprend pas quand elle parle. Et en fait, elle est dans une chambre à l'étage quand je vais chez mon grand-père. Et du coup, on passe très vite la voir et moi, je veux vite repartir de cette chambre parce qu'elle me peine, elle me fait mal, elle est toute maigre. Et je comprends pas trop ce qu'elle a, en fait. Et puis on n'en parle jamais de toute façon, donc c'est pas un poids dans ma vie, c'est une anecdote. Ma grand-mère, je la connais pas, je l'ai jamais connue non malade, je l'ai jamais connue valide. En fait, on parle jamais de ça à la maison, ni avec notre famille. On sait qu'elle est là, mais on n'en parle pas. Et en fait, c'est seulement quand je suis au collège. En fait, je suis une enfant très studieuse, très scolaire et en bonne intello que je suis. Je suis au club, au petit journal du collège. Et du coup, je me dis, je vais faire un article sur la maladie de ma grand-mère. Et de là, je demande à mes parents quel est le nom de cette maladie et je commence mes petites recherches. Et là, c'est un peu la stupeur parce que j'apprends sur Internet que c'est une maladie neurodégénérative rare, incurable et qu'elle est héréditaire. Et bon, je suis pas très inquiète sur le moment parce que bon, j'apprends qu'elle est héréditaire, mais le pourcentage de la transmettre est de 1 sur 2. Donc je me dis, bon, ma grand-mère l'a, mais il y a un risque sur 2 qu'elle le transmette à mon père. Et si jamais, si toutefois mon père l'avait, il y a un risque sur 2 pour que je l'ai. Donc à ce moment-là, c'est pas une inquiétude, mais quand même, c'est un petit choc dans ma vie de collégienne. Je me dis, purée, une maladie rare dans ma famille. Et ça fait tout de suite peur, le mot maladie orpheline, quand on le voit écrit. Et je me souviens très bien m'être dit, déjà de ne pas avoir compris ce que ça voulait dire orpheline. Et puis après m'être dit, oh, c'est fou, ouais. Je savais pas, quoi. Je passe beaucoup de temps à lire tous les symptômes, et en fait la particularité de cette maladie, c'est qu'elle en a des centaines et des centaines, parce qu'elle touche trois niveaux, cognitif, psychiatrique et moteur. Donc déjà j'ai du mal à comprendre ce que veulent dire ces trois mots. Il y a par exemple des oublis, il y a des pertes de mémoire, des colères, etc. Et c'est un peu abstrait pour moi, parce que je me dis, mais c'est fou d'avoir une liste comme ça, enfin, ça touche tout en fait. Et voilà, et donc je laisse ça dans un coin de ma tête à ce moment-là. Et puis, au fur et à mesure que j'avance dans le collège, je me rends compte, en fait, et avec Théo et maman, on se rend de plus en plus compte qu'il y a des petites choses qui nous font tiquer. De plus en plus, papa a des mouvements involontaires. Il donne des petits coups de genou dans la table quand on mange. Et on lui dit, mais arrête, c'est insupportable. Et il dit, mais arrête quoi. Enfin, il s'en rend pas compte. Et du coup, c'est des petites choses comme ça, ou des petits oublis, ou des petites colères. Et au fur et à mesure, l'idée de la maladie commence à émerger pour nous trois, quoi. Par contre, pour papa, pas du tout. Alors, au fur et à mesure de mon collège, je commence à m'affirmer, à avoir mes propres idées, à vouloir débattre, à discuter. Et c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout à papa. Et il y a des points de friction qui commencent à entrer entre nous deux. Et en parallèle de ça, la situation entre papa et maman se dégrade encore plus, parce que les bouderies deviennent de plus en plus récurrentes. Et puis, maman, elle commence à vraiment en avoir ras-le-bol, en fait, de ces petites bouderies, de ces colères complètement injustifiées. Et donc, du coup, pendant les vacances d'été, on est deux jours avant ma rentrée en troisième, et maman me propose d'aller faire une journée à Caen. Donc, on est le 31 août 2013, et je sens qu'elle a besoin de ça, qu'elle en a marre, qu'elle est fatiguée, et que c'est devenu difficile avec papa. Et on rentre de Caen, et de nouveau, ils se disputent super fort. Et cette fois, contrairement aux autres fois, c'est que papa, il comprend qu'elle va partir. Et il comprend qu'il a été trop loin, et je le vois dans son regard. Je vois qu'il a compris, et je vois qu'il est triste, qu'il est attristé. Et du coup, j'entre dans la cuisine, il est en train d'écrire un mot, quelque chose sur un papier, je lui demande ce que c'est, et il me dit rien. Et il cache le papier. On se met tous à table, et on avait rapporté des pizzas avec maman, on mange tous nos pizzas, et lui, il la mange pas. Et ça n'arrive pas à papa. Sous aucun prétexte, il ne mange pas. La soirée est extrêmement pesante. Je crois qu'elle n'a jamais été aussi pesante de toute ma vie. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Enfin, c'est pas possible. Et on va tous se coucher, papa va pas se coucher, il ramène un oreiller dans le salon. Et donc, je comprends qu'il va pas aller dormir avec maman, ce qui n'arrive jamais. Et je redescends lui apporter un duvet. Et il me dit merci, et puis il me demande d'aller me coucher. Donc, on se couche tous. Et des heures passent, et j'arrive pas du tout à trouver le sommeil. Et à un moment donné, j'entends la porte du cellier s'ouvrir, puis la porte du garage. Et il devrait déjà être revenu, en fait. Donc, je me dis qu'il y a une situation anormale, donc je décide de descendre, je passe la porte du cellier, la porte du garage. Et on est face à face, nos regards se croisent, et il est debout sur une chaise, la corde au cou. Et là, je me mets à hurler. Donc il y a maman et Théo qui descendent. On lui fait promettre de ne plus jamais recommencer ça, qu'il ne peut pas nous laisser, qu'il n'a pas le droit de faire ça. Et au moment où on se prend dans les bras, je tourne la tête et je vois le papier qu'il était en train d'écrire juste avant. Et c'était marqué « testament ». Et voilà, et donc la nuit qui suit, bon, clairement, personne ne dort, je pense. Et les jours qui suivent sont extrêmement durs. Parce que clairement, on est tous attristés. Il y a papa qui comprend que maman ne l'aime plus. Maman, elle comprend qu'elle peut pas partir, qu'elle est bloquée. Et nous, les enfants, on comprend qu'on n'est plus des enfants. Et à ce moment-là, je me rappelle me dire « Ah ouais, c'est ça la vie ». Et à ce moment-là, j'ai senti le poids de la responsabilité de la survie de mon père. Parce que si je m'étais pas levée, il serait mort. Et les semaines qui suivent, c'est à peu près pareil. Voilà, on est toujours dans cette situation d'extrême tristesse. on se mure dans notre silence parce qu'on nous a demandé de nous taire, de ne pas ébruiter la situation. On en a parlé voilà, dans la famille de mon père et on nous a dit surtout « dites rien ». Parce que je pense que c'était un peu la honte de parler de ça. Et pendant, je pense, 6 mois, c'est une situation de survie un peu parce que j'ai l'impression qu'il faut que je veille constamment. Et puis finalement, 6 mois passent et la situation évolue de nouveau parce que de la profonde tristesse, j'ai l'impression qu'on fait un retour en arrière et qu'il redevient cet homme autoritaire et cet homme colérique qu'il était avant d'être un homme attristé. Du coup, quand tout ça se produit, on comprend de plus en plus que c'est lié à la maladie et on essaie de lui en faire prendre conscience. Donc de plus en plus, on a cette conversation avec lui et lui dire « Tu sais, papa, faudrait que t'ailles voir quelqu'un ». Et en fait, c'est très difficile d'avoir ces mots et de faire prendre conscience à quelqu'un qu'il est malade. Et lui, en revanche, ne l'admet pas du tout et nous rejette complètement quand on parle de ça. Et donc, il n'y a aucune reconnaissance de son côté de la maladie. Et donc, on se retrouve confronté à un mur, quoi. Du coup, voilà, on reste dans cette situation d'extrême sous haute tension, disons, pendant un petit moment, jusqu'à ce que fin 2014, Théo rentre du hand et papa lui demande alors comment ça s'est passé. Théo dit très bien, il lui dit t'étais tout seul. Donc Théo comprend pas la question. Enfin, il lui dit comment ça tout seul. Et là, papa pète un câble. Il se lève d'un coup de sa chaise. Il se met à hurler qu'on lui parle n'importe comment, qu'on n'a aucun respect. Il sort de la cuisine, il va dans le cellier, il va dans le garage, il prend ses clés de voiture, il claque les portes, il prend sa voiture et il part en trompe de la maison et il va s'encastrer dans une barrière qui est à 50 mètres de chez nous. Tous les airbags se déclenchent, sa voiture est emplafonnée dans la barrière et il sort de la voiture et il part à travers champs. Et je me dis, mais il est taré. Et du coup, c'est difficile de savoir si c'est la maladie qui a gagné sur lui ou si c'est vraiment lui. Et à ce moment-là, je suis rongée par la colère de ce qui nous fait vivre, quoi. Donc ensuite, je décide de partir à l'internat parce que c'est devenu trop compliqué. À la suite d'une énième colère, je vais voir la CPE en cours d'année de seconde et je lui dis, je veux entrer à l'internat. Donc ça me permet vraiment de souffler à ce moment-là parce qu'en fait, depuis des années, j'arrive à faire une grosse dissociation entre ma vie scolaire et ma vie familiale. Et ma vie scolaire est remplie de normalité et je m'y attache beaucoup, je m'y accroche beaucoup. Et en fait, cette situation-là, elle se fige pendant 2 ans et demi. Au bout d'une énième tentative de suicide et il est emmené par les pompiers parce qu'il est gravement blessé. Là, à ce moment-là, je pense que ça a été le coup de massue de trop pour maman et elle décide de partir de la maison avec ses 2 enfants sous le bras, comme on dit. Et on part vivre dans une autre maison dont elle communique pas l'adresse à papa. Et on va vivre comme ça pendant 1 an un peu caché, en plus dans une vieille maison normande, donc j'avais vraiment l'impression de me sentir dans un film. C'était une maison très sombre et papa savait pas où on habitait. Et là, on commence un peu une nouvelle vie où on essaie de se reconstruire. Mais c'est une reconstruction toute relative parce que c'est difficile de sortir de ça et il a été notre bourreau, quoi. Il nous a détruits, il nous a mis sous terre. Et il n'y a rien qui estompe cette colère-là chez moi. Et je commence de plus en plus à avoir des grandes envies de liberté, des grandes envies de tout envoyer balader, de me libérer en fait de tout ça, de ma famille et de tout quitter. Du coup, dans mes grandes envies de liberté, moi j'ai envie de faire une action pour parler de Huntington, pour parler pas de ce qu'on a vécu parce que c'est trop frais encore pour moi, c'est trop proche, mais pour parler de juste que cette maladie existe, que c'est une maladie rare, qu'elle est incurable. Et un peu pour faire un petit coup de com' sur la maladie qui m'a détruit. Et du coup, je décide d'aller faire le Mont Blanc, l'été 2018, ce qui est une grande folie à ce moment-là parce que j'ai aucune expérience en alpinisme, j'ai tout juste 18 ans. Maman, elle me dit « mais c'est n'importe quoi, enfin, qu'est-ce qui te prend de vouloir faire ça ?» Et du coup, je décide quand même de partir et je me fais beaucoup soutenir par Barbara, la directrice du centre de loisirs dans lequel je travaille l'été, qui me dit « mais contacte la presse, mets en place une cagnotte et tu verras ce que ça donne ». Et en fait, ça prend une ampleur que j'avais pas du tout imaginée. C'était quelque chose de très inattendu parce que moi, à la base, mon action, c'était un cri du cœur. Je recherchais pas l'événement, je cherchais à me faire aider. Pour la première fois de ma vie depuis 2013, je me sens plus seule. Je me sens aidée, soutenue et ça fait un bien fou. Et du coup, je fais le Mont Blanc avec le meilleur copain de papa et avec un guide et je ressors de cet événement et je me dis, mais c'est impossible que ça s'arrête, quoi. c'est impossible. J'en ai tiré trop de belles choses, de soutien et tout ça. Et du coup, je propose à mon frère de participer au prochain challenge sportif. Et mon frère, qui a 15 ans, accepte. Et donc, les années qui suivent, on fait la traversée de France à vélo en une semaine, une course de 200 km en 48 heures, la traversée d'Europe à vélo en deux semaines. Et en fait, ces événements-là, donc ponctuellement, une fois dans l'année, on arrive à avoir le soutien des gens qui sont concernés par les mêmes choses, des informations. Et puis, c'est une vague... ouais, c'est... On perd toute la solitude qu'on connaît depuis des années. Ça y est, on sort un peu de cette situation macabre et ça fait trop du bien. Pendant ces années-là, notre relation avec notre père, elle est épistolaire. Enfin, on a eu besoin, je pense, d'une grande rupture entre lui et nous. Et on le revoit, enfin, on est toujours, c'est notre père, donc on continue d'aller le voir. Enfin, moi, je sais que je le prends comme un devoir, je dois aller le voir, et pas comme du tout quelque chose qui me fait plaisir. Hein. C'est douloureux d'aller le voir, et puis de plus en plus, clairement, la maladie l'affaiblit, l'affecte, et le touche de plus en plus. Sa maison est très sale parce qu'il est plus capable de faire son ménage, c'est très difficile de le comprendre parce qu'il bégaye de plus en plus. On sait qu'il est incontinent la nuit, enfin, il y a plein de trucs où... Ça y est, enfin là, il est touché par la maladie et ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Mais pour autant, on renoue pas du tout de lien fort entre lui et nous. Et en parallèle de ça, moi, je me lance dans la procédure pour avoir les résultats de la maladie, pour savoir si je suis porteuse. Donc, c'est une longue procédure qui dure un an parce qu'il y a plein de spécialistes à rencontrer. Et au bout d'un an, je vais aux résultats de cette maladie et j'apprends que je suis porteuse du même gène que mon père. C'est bon, il y a un moment de choc, c'est inévitable. Mais j'attendais ce résultat depuis des années parce que moi, déjà, avec ce que j'avais vécu, je veux pas faire subir, en fait, à ce moment-là, ce qu'il nous a fait subir. Donc, c'était vraiment une nécessité pour moi de faire ce test. Non seulement, à ce moment-là, j'ai la rage de tout ce qui nous est arrivé, mais à ce moment-là, j'ai la rage de tout ce que je veux vivre, quoi. Et ça, le fait que je sois porteuse du gène, c'est encore plus fort parce que ça y est, je sais que je suis concernée par ça et que le combat continue, entre guillemets. J'ai un élan de vie qui est immense à ce moment-là parce que tous les tracas du quotidien, tout ce qui m'effrayait, enfin, en fait, tous les tracas du quotidien des gens, hein, tous les tracas de la vie quotidienne que tout le monde a tous les jours, des événements passés, des choses à venir, des projections, etc. Tout ça, ça disparaît un peu parce qu'en fait, c'est plus du tout important à ce moment-là. Enfin, Huntington a la particularité de pouvoir se déclencher n'importe quand. Ça peut se déclencher demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Je sais juste que ça va se déclencher un jour. C'est une épée de Damoclès. Alors, beaucoup disent ça, mais moi, je le prends vraiment pas comme ça. Je ressens pas du tout cette épée de Damoclès. Moi, j'ai l'impression que la maladie, elle m'a libérée de ces tracas-là. Et je me sens beaucoup plus libre. Enfin, ce à quoi des gens se diraient « Ah non !» Moi, je me dis, bah, si, si. Et tout mon quotidien est tourné autour de ça. Enfin, je me pose pas 10 000 questions pour faire un truc. Enfin, vraiment, il y a ce truc où je sais que je compte. Enfin, je vis jour après jour, mais littéralement, quoi. Il y a plus de projection et j'ai très peu de projection dans ma vie parce que je sais pas ce qui est demain, quoi. Ce résultat-là, je l'attendais parce que depuis 2013, moi, je savais que je voulais faire ce test, mais comme on parle de maladie incurable, c'est un process assez compliqué. On peut le faire qu'à partir de 18 ans, il faut être majeur. Et donc, ça fait des années que j'attends ce résultat. Donc, ce résultat, il me libère quand je l'ai parce que c'est très lourd d'attendre un résultat. Et il me libère parce que il me donne soif de vivre, quoi. Il me donne de la rage. Papa, par rapport à nos défis, il est assez lointain de tout ce qui se passe. Notre relation, elle est épistolaire, donc il s'y intéresse, mais d'assez loin. Et puis de plus en plus, finalement, il s'intéresse à ce qu'on fait. Et puis il voit parfois apparaître des petits reportages sur France 3. Et puis il est de plus en plus ému qu'on parle de sa maladie. C'est une situation assez délicate pour nous de parler de lui, sachant que tous nos liens ont été rompus. Et que moi, si je fais ça, c'est plus pour Huntington que pour lui à ce moment-là. Pas parce que je veux parler de Huntington, mais lui, il refuse de voir qu'il a Huntington, alors je respecte ça, entre guillemets. Et de plus en plus, il en vient à intégrer sportivement nos défis. Quand on fait les 200 km de course à pied, il fait le dernier marathon avec nous. Et là, c'est une première victoire parce que c'était pas du tout prévu qu'il fasse le dernier marathon. Il devait faire juste les 10 derniers kilomètres. Et là, on le voit courir devant nous et il nous porte quelque part. Et on se dit, purée, il est bien atteint par les symptômes, mais il a encore la niaque, c'est fou. L'été d'après, on fait la traversée d'Europe à vélo et il nous rejoint au moment où on est sur Paris parce que c'est le jour de son anniversaire et on fait un petit événement où il y a plein de familles et tout ça. Et c'est un événement extrêmement émouvant. Et ouais, alors qu'on n'a plus vraiment de relation avec notre père, on arrive quand même à repartager des beaux petits moments. Et le Saint Graal de tout ça, ça arrive qu'en 2022 où nous, on prévoit de faire l'ascension du Kilimandjaro. Et voilà, c'est un des 7 sommets les plus hauts du monde. Nous, on est toujours dans notre lignée de toujours faire parler de Huntington, faire du bruit sur cette maladie en faisant un exploit sportif. Et au détour d'une conversation, il y a un ami qui me dit « Mais pourquoi t'emmènes pas ton père ?» Et à ce moment-là, ma première réaction, c'est de dire « Ah non, jamais je l'emmènerai. Je le connais, enfin, je sais de quoi il est capable, je ne veux pas l'emmener. » Et puis finalement, cette idée fait son chemin dans ma tête et je me dis quand même, ça pourrait être bien pour nous. Et je l'appelle et je lui demande. Et il me répond très distinctement « Ça me dirait bien. » Et je suis scotchée sur ma chaise parce qu'il est très difficile à comprendre. Et des paroles dites très distinctement, il n'y en a pas beaucoup. En fait, je sens qu'il sourit et je sens que c'est une parole éclairée. Et ça ne m'est pas arrivé depuis des années de l'entendre parler aussi distinctement. Et ça me fait du bien. Et je me dis « Wow, incroyable, bon, bah, let's go. » Et on se lance dans ce projet. Et en fait, finalement, il en vient à faire des concessions de plus en plus. On lui propose kiné, on lui propose aide à domicile, infirmier. Et il sent bien qu'en fait, il doit être en forme pour le Kilimandjaro. Et de plus en plus, il fait ses concessions. Et on trouve ça dingue. Donc, on surfe sur cette vague et on met en place tout ça. Et on part au Kilimandjaro. Et en fait, ce qui nous a inquiétés, c'est que tout ça recommence. Et finalement, tout ça n'a pas du tout recommencé. Et à la place de ça, on l'a ressenti vivre, quoi. Il a retrouvé de l'humanité. Ses traits de visage se sont complètement apaisés. Il a retrouvé beaucoup de sa parole. Enfin, il riait. On le voit rire au Kilimandjaro. Et là, je pense que maman Théo et moi, on s'est pris une grosse claque. Parce qu'on n'imagine pas à ce moment-là que ça puisse arriver. On n'attend plus que ça arrive. Et ça arrive. Au Kilimandjaro. Et on repart du Kilimandjaro en se disant qu'il faut absolument qu'on continue de faire des défis, mais avec lui, quoi. Et après, le Kilimandjaro, ça se confirme, tout ça. C'est-à-dire qu'il accepte l'aide et on se réaccorde chacun de la confiance. Et une confiance qui avait complètement été brisée, qui avait disparu. Et on recrée des liens familiaux qui avaient été complètement rompus. Et on commence à se recréer des souvenirs aussi. Et ça, c'est super important parce qu'on sait que son temps, il est compté. Et le fait que cet événement surgisse à ce moment-là et qu'on retrouve nos liens familiaux à ce moment-là, ça fait juste du bien parce qu'on se dit on a retrouvé notre père et on s'est retrouvés tous les quatre, quoi. Enfin, la belle histoire s'arrête pas là parce que on a une boîte de prod qui s'est intéressée à notre histoire et une boîte de prod qui vient au Kilimandjaro qui capture ce qui se passe à ce moment-là. Mais nous-mêmes, on savait pas que ça allait se passer. Mais la boîte de prod capture tout ça. Raconte notre histoire et Ruben, le réalisateur, filme tous ces moments-là. Et là où le Kilimandjaro a été bénéfique pour nous quatre, pour Théo, papa, maman et moi, le documentaire l'est pour notre famille plus globalement. Parce qu'en fait, ils ont pu voir, visionner ce qui s'était produit. Et au-delà en fait, de restaurer notre famille à tous les quatre, à nous, elle a plus globalement restauré notre famille plus large, quoi. Parce que du tabou, on est passé à l'autodérision sur des situations où papa va se mettre à cracher sur tout le monde, ou voilà. Et tout ça, ça a fait un grand bien dans notre famille, quoi. Et c'est sûr que papa, aujourd'hui, il est beaucoup plus atteint par les symptômes qu'il y a 10 ans. C'est sûr qu'il mourra de Huntington. Mais par contre, pour rien au monde, on retournerait à il y a 10 ans, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on vit tous mieux, quoi. Et lui y compris. Même s'il est plus atteint par les symptômes. Parce qu'on a retrouvé de la sérénité dans notre famille, on a retrouvé des liens familiaux. Il a compris qu'il devait se faire aider et qu'il avait besoin de nous. Et ça fait trop du bien. Moi, Aujourd'hui, mon seul objectif de vie, c'est de vivre chaque jour, de consommer chaque jour comme je le peux. Et je veux continuer d'être ambassadrice pour Huntington. J'ai l'impression que c'est ma mission dans la vie, voilà, clairement. Parfois, je me dis, il y a des gens qui cherchent toute leur vie ce qu'ils doivent faire ou leur but dans la vie. Et parfois, je me dis, mais j'ai de la chance, moi, j'ai trouvé ce que le sens à ma vie, j'ai trouvé ce que je devais faire, je sais où je vais, je sais précisément où je vais vers faire parler de Huntington et c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Et je place beaucoup d'espoir dans la recherche parce que clairement, avec les moyens qu'on a aujourd'hui et la recherche sur Huntington qui se coordonne à un niveau international, il y a beaucoup d'espoir. Donc, j'essaie de pas du tout m'imaginer malade, ça serait se torturer hein, de faire ça. J'essaie juste de me dire que mon combat, c'est de continuer à parler de Huntington, de faire ses actions sportives et de toujours faire plus de bruit autour de Huntington. Et moi, c'est ma raison de vivre. Moi, je me considère rescapée de ces années où on aurait pu sombrer. En fait, c'est un naufrage familial qui a duré 10 ans. Et on aurait pu sombrer à chacune de ces tentatives de suicide. On aurait pu sombrer au moment où il a déclenché de manière plus forte les symptômes. On aurait pu sombrer au moment où j'ai appris que j'étais porteuse de Huntington. Enfin, en fait, ça a été un naufrage de 10 ans et moi, aujourd'hui, je me sens rescapée de 10 ans de naufrage. Cette maladie, clairement, en 2013, je ne la considérais pas du tout comme une chance. En 2013, c'est notre fardeau, c'est ce qui nous mène vers la mort. Mais je pense que le fait d'avoir appris ce que j'étais porteuse a réveillé un truc en moi de rage et d'envie de vivre. Et puis on se rend compte, hein, même au travers de toutes ces années, qu'on s'accroche constamment à la vie, qu'on ne veut pas abandonner, malgré que ça soit dur et malgré qu'on ne voyait pas le bout du tunnel. Hein, combien de fois je me suis dit, en fait, on va y rester, on ne s'en sortira jamais. En fait, on s'accroche tous à la vie. Et finalement, aujourd'hui, grâce à la maladie, on redécouvre des formes de partage qu'on n'a jamais eues. Avec papa, on échange beaucoup par le regard. On échange d'une autre manière parce que maintenant, ça y est, il est très atteint par les symptômes. Mais cette maladie, à l'heure actuelle, le fait que j'ai appris que je sois porteuse et le fait que papa ait accepté qu'il soit malade, cette maladie, elle nous a sauvés. Elle a recréé du lien. L'ascension du Kilimandjaro, tout ça, enfin, ça nous a renforcés. Alors en fait, cette histoire-là, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai jamais racontée. C'est la première fois que je la raconte. Nous, quand on raconte l'histoire avec Théo et la façon dont on a créé notre asso et les défis sportifs, c'est autour des défis sportifs, des déclenchements moteurs, on va dire, de papa, des déclenchements des symptômes moteurs de papa. Et on s'en tient là parce que bah, c'est une histoire très lourde à porter. Et puis en plus, c'est extrêmement long à raconter. Il y a beaucoup de rebondissements et c'est quelque chose que j'avais clairement mis sous le tapis depuis des années. Et en fait, c'est en entendant parler quelqu'un aussi concerné par Huntington qui me racontait bah, une situation similaire, je me suis pris une claque où je me dis mais en fait c'est pas propre du tout à ma famille, c'est propre aux familles de Huntington. Et là je me dis mais en fait mon père était atteint de troubles psychiatriques importants et j'avais toujours pas compris. Et j'ai compris là, seulement là. Et là, je me suis dit, mais faut absolument témoigner de ça parce que, en fait, c'est cette partie-là de l'histoire qui est extrêmement dure. C'est ces années-là qui ont été dures et c'est ce pourquoi on s'est senti sombré. Je me suis dit, mais ces années-là, ça a été une honte pour nous et on n'en a pas parlé, mais il faut que les gens entendent que c'est pas une honte et que Huntington, ça touche des troubles psychiatriques importants et des envies suicidaires importantes. Et clairement, ça me semble être une nécessité aujourd'hui pour les familles de Huntington qu'elles entendent que bah oui, ça arrive et qu'il faut qu'elles aillent chercher l'aide parce que nous, on est restés terrés dans notre trou, mais qu'il y a de l'aide partout, quoi. Alors, mes projets pour l'avenir, clairement, c'est de continuer les défis sportifs tous les ans. On va essayer de garder le rythme, c'est parfois difficile. Et puis là, moi, je travaille sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. J'aime beaucoup parce que c'est de l'événementiel sportif. Donc moi, je fais de l'événementiel sportif à petite échelle et là, je fais de l'événementiel sportif à échelle fois 1000. Et j'aime bien ça parce que l'événementiel sportif, en fait, c'est très rythmé. Enfin, ça impose un rythme et puis des moments de rush et des moments de down. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, mes projets pour l'avenir, c'est pourquoi pas me balader de jeu en jeu, de voyager d'un pays à l'autre pour continuer à faire ces événements-là tout en continuant à faire mes défis sportifs.
Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés ? Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.